Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
En RDC, les cas de violences sexuelles sont légion. Le plus souvent, on les constate à travers le pays, mais un constat très amer. Selon certains observateurs, les auteurs de ces viols courent parfois les rues sans être inquiétés. Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de viol et quelles sont les différentes formes de violences faites à la femme? Nous en parlons avec Maître Dominique Amandou, avocat à l'ONG Avocats sans frontières. Il faut encore bonjour Maître Dominique.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, alors est-ce que le législateur congolais s'est déjà prononcé sur les violences sexuelles?
Merci beaucoup, JR. Nous précisons que depuis juillet 2006, le législateur congolais a affiché sans ambiguïté la volonté ferme de réprimer rigoureusement les violences sexuelles. Une nouvelle loi a été adoptée et promulguée. Cette loi a apporté une réforme en droit pénal congolais en matière de violences sexuelles parce que sous l'empire de l'ancienne loi, seules les infractions de viol et d'attentat à la pudeur étaient réprimées. Elles-mêmes, les définitions de ces infractions dans l'ancienne législation étaient très lapidaires. Donc, plusieurs actes de violence sexuelle en République démocratique du Congo avant 2006 échappaient à la sanction parce que leurs éléments constitutifs n'étaient pas avec les éléments légaux tels que prévus par la loi. Mais avec la loi de juillet de 2006, le législateur a amorcé une réforme très significative pour adapter la législation congolaise au droit international, au droit international humanitaire. Donc aujourd'hui, les violences sexuelles sont bien prévues par la loi, clairement définies et réprimées parce qu'il y a des sanctions appropriées qui sont prévues par la loi.
Et c'est cette loi du 20 juillet 2006 est-elle d'application dans les différentes instances judiciaires en RDC aujourd'hui?
Effectivement, depuis son entrée en vigueur, c'est le seul cadre juridique légal valable qui doit être appliqué et qui est appliqué en matière de répression des infractions des violences sexuelles. Bien qu'on rencontre ça et là certaines difficultés pour l'application, par exemple en ce qui concerne l'appréciation de l'âge de la victime par le médecin, on se retrouve dans des coins où il n'y a pas de médecin, on se retrouve dans des coins où le médecin n'a pas le matériel adéquat pour pouvoir procéder à des analyses appropriées. Donc ce sont des difficultés que l'on rencontre et d'autres difficultés, c'est en ce qui concerne aussi la question de la preuve. Parce que dans la plupart des cas, certaines victimes qui ne sont pas informées, après l'acte, se pressent par exemple de se laver et vont peut-être voir à l'hôpital plusieurs jours après. À ce moment-là, il est difficile de retrouver les traces des viols. Et ce sont des difficultés que l'on rencontre dans l'application de la loi, ça et là, et aussi des difficultés d'ordre pratique en ce qui concerne les moyens logistiques à disposition des cours, des tribunaux et même de la police pour pouvoir mener des investigations et des enquêtes comme il se doit.
Mais voilà, nous vous rappelons que vous pouvez participer à cette émission. Peut-être vous avez un cas de litige en justice avec votre bourreau, ou peut-être vous êtes un vrai faux bourreau, parce que jusque-là vous bénéficiez de la présomption d'innocence. N'hésitez pas, partagez avec nous ce moment donc d'échange avec autour de ce sujet en composant les 081-890-63-94. Maître Dominique, des cas de violences sexuelles constituent quelle matière juridique?
Nous nous retrouvons là en droit pénal, c'est une matière de droit pénal. Il s'agit des infractions et quand on parle d'infraction, on voit une action ou une omission définie par la loi pénale et pour laquelle il est prévu une peine. Donc nous sommes en matière de droit pénal.
Donc si on est victime de violences sexuelles, l'affaire sera débattue dans un tribunal de paix?
Non. Les infractions des violences sexuelles, pour la plupart, ont une peine qui peut aller, ça dépend d'une infraction à une autre, ont une peine qui peut aller jusqu'au-delà des 5 ans. C'est à partir de cela qu'on peut déterminer les tribunaux compétents pour des infractions comme l'attentat à la pudeur dans les cas où la peine maximale est de 5 ans. À ce moment-là, on peut aller devant les tribunaux de paix. Mais pour l'infraction des viols, par exemple, c'est les tribunaux de grande instance.
Voilà, on va y venir, mais le temps pour nous de prendre le premier auditeur qui est très intéressé à ce sujet, Joël Bongol de Mbandaka. Bonjour Joël.
Bonjour, monsieur Jean-René.
Voilà, vous êtes sur Okapi, nous parlons des violences sexuelles, que dit la loi congolaise. Avez-vous une préoccupation particulière?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce que la victime de violences sexuelles peut faire lorsque ses parents et l'auteur de l'infraction s'entendent pour traiter l'affaire à l'amiable? Et quelles sont les sanctions prévues pour ses parents?
Voilà, maître Dominique, qu'est-ce que la loi sur les violences sexuelles en RDC prévoit des dispositions de l'arrangement à l'amiable?
La loi sur les violences sexuelles, particulièrement la loi relative à la forme, interdit les amendes transactionnelles, c'est-à-dire des arrangements qui peuvent se faire au niveau de la police ou du parquet pour que les parties se mettent d'accord et que la personne poursuivie soit amenée à verser une amende transactionnelle pour mettre fin à l'affaire. Ces procédures-là ou cette pratique est interdite par la loi. La loi ne parle pas clairement des arrangements à l'amiable, mais avoir l'attitude du législateur face à la question de l'amende transactionnelle, nous pouvons dire que le législateur a voulu que l'auteur des violences sexuelles soit présenté devant les tribunaux et soit sanctionné rigoureusement conformément à la loi. C'est ce qu'on peut déduire de cette volonté de la loi. Mais les gens doivent savoir que les arrangements à l'amiable n'enlèvent pas au parquet la possibilité de poursuivre, parce que l'action pénale revient au parquet, c'est une action publique. En faisant des arrangements à l'amiable, la partie civile peut renoncer à ses intérêts, aux intérêts civils, et se contenter de la chèvre et des sommes qui ont été versées. Mais cela n'enlève pas les caractères infractionnels et n'enlève pas à l'officier du ministère public la possibilité de pouvoir poursuivre les délinquants ou la personne présumée auteur de cette infraction.
Oui, nous avons également en ligne Fidèle Kadieboué de Kananga. Bonjour Fidèle.
Bonjour JR.
Alors, quel est votre témoignage par rapport à ce sujet? Est-ce que vous avez vécu des cas pareils dans votre entourage ou peut-être dans votre famille?
Ok, nous en vivons vraiment presque partout dans notre pays, mais surtout ici à Kananga. Donc je voulais savoir, lorsque l'auteur de l'infraction est puni, mais nous trouvons ici qu'il y a des arrangements à l'amiable, est-ce que cela ne bafoue pas réellement la loi? Et dans la loi, elle n'est pas bafouée, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on retrouve que l'infraction qui est prévue par la loi n'est pas du tout appliquée, parce que il y a des arrangements à l'amiable. Donc je viens de
Que
ce n'est pas vraiment
mauvais
dans ces cas-là.
Oui,
effectivement, les arrangements à l'amiable ne facilitent pas la tâche à la justice de pouvoir réprimer sévèrement. Et c'est ce qui est même à la base dans certaines analyses que nous avons faites. Nous constatons que ces analyses, ces arrangements à l'amiable facilitent à ce que l'infraction ou les phénomènes de violence sexuelle puissent prendre des proportions inquiétantes parce qu'il y a impunité des auteurs. Même s'il y a des arrangements à l'amiable, c'est s'ils sont en train de bafouer la loi, mais nous devons, les citoyens congolais qui sont au courant, ou même la victime qui n'est pas d'accord avec l'attitude de ses parents, peut dénoncer cet acte au parquet. Et le parquet a le pouvoir de poursuivre même s'il y a eu arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable en matière de violences sexuelles ne met pas fin aux poursuites judiciaires.
081-890-63-94, c'est pour les appels.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
J'avais une inquiétude avant qu'on puisse recevoir nos auditeurs, maître Dominique, c'était en rapport avec l'instance habilitée à traiter des cas donc de violences sexuelles. Vous avez dit que ça dépend des formes de violences. Est-ce qu'on peut avoir une idée très précise sur ces formes, les formes de violences qu'énumère le législateur congolais?
En ce qui concerne les tribunaux compétents, nous disons que pour les cas, par exemple, d'attentats à la pudeur, lorsque la peine maximale est de 5 ans, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un attentat à la pudeur commis sans violence, sur une personne majeure, par exemple, la peine va de 6 mois à 5 ans. Dans ces cas-là, c'est le tribunal de paix. Les viols pour lesquels la peine prévue va de 5 à 20 ans de prison, dans ces cas, c'est le tribunal de grande instance. Le harcèlement sexuel, par exemple, où la peine peut aller jusqu'à 5 ans, lorsque c'est moins de 5 ans, c'est le tribunal de paix. Lorsque c'est plus de 5 ans, à partir de plus de 5 ans, plus, c'est le tribunal de grande instance. Ou, par exemple, l'infraction d'excitation des mineurs à la débauche, où la peine maximale est de 5 ans. Dans ces cas, les tribunaux compétents, c'est les tribunaux de paix. Donc, pour des infractions comme la zoophilie, où on oblige une personne à avoir des rapports intimes avec un animal, la peine est de plus de 5 ans. Là, c'est les tribunaux de grande instance. Donc, la nouvelle loi a mis sur pied plusieurs infractions de violence sexuelle. Nous avons l'excitation des mineurs à la débauche, nous avons les proxénétismes, nous avons les délits du souteneur et les harcèlements sexuels, la zoophilie, comme on vient de les citer, c'est la grossesse forcée, le mariage forcé. Donc, ce sont là des tas d'infractions mises en place avec la réforme de 2006.
Oui, alors zoophilie, je crois que pour nos auditeurs, il faudrait quand même qu'ils aient quand même une idée qu'on parle de zoophilie, c'est quoi?
La zoophilie consiste dans le fait d'avoir des relations sexuelles avec un animal. Pour des raisons de lucre, il y a des raisons financières. On a vu, entendu parler des femmes qui se faisaient recruter et qui, certaines qui allaient volontairement et certaines qui étaient même obligées de pouvoir faire l'amour avec un animal, de pouvoir s'accoupler avec un animal et on prenait des photos, on était en train de filmer pour à destin peut-être commercial ou je ne sais pour quelle autre infraction ou pour quelle autre exploitation. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zoophilie.
Alors, Maître Dominique, en scrutant cette loi, nous sommes arrivés quelque part donc au niveau de l'article 170 de cette loi qui parle des cas de viol. Ici, le viol est défini comme, comme suite, est réputé viol à l'aide de violence, le seul fait du rapprochement charnel de sexe. Et, vous ne trouvez pas que c'est trop rigoureux, le fait seulement de se rapprocher, le rapprochement de sexe constitue le viol?
Mais lorsque on veut ici protéger la dignité de la personne humaine, de la femme particulièrement, bien que selon la loi, un homme peut aussi être victime de viol. Mais lorsqu'il y a rapprochement de sexe, dans le but de pouvoir satisfaire des passions sexuelles, on se rend compte qu'on est en train de commettre, il y a déjà là une infraction, ça peut être une tentative, on peut être en train de rapprocher en vue de la pénétration, par exemple. Mais s'il y a eu déjà une tentative, la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée. Et donc cela, c'est pour garantir la matérialisation de l'infraction que le législateur a réprimé cette infraction et l'a définie.
Voilà. Alors, nous avons Serge Mwamba de Guémena. Bonjour, Serge.
Bonjour, Jérémy. Je voudrais poser à M. Dominique Mwamba, parce que c'est pas vraiment une question, mais une expérience que j'ai vécue, pour me donner peut-être une solution. J'ai une sœur de notre quartier qui a été violée par des inconnus. Alors, mais là, la victime a été devant la barre de la justice. Il a indiqué que je l'avais violée. C'est là que la famille qui a violé la fille avait beaucoup de moyens. La famille est partie corrompre les hommes de la touche noire. On disait que l'autre, on leur donne de l'argent. Alors, quelle menace la précaution pour prendre des pareils cas? Puisque la famille n'a pas d'argent, on ne peut pas aller à la justice. Ou bien, si on est violé, on ne peut pas encore parler puisqu'on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des pareils cas, monsieur Dominique Camando?
Il y a déjà des délits de justice. Peut-être on a
peur d'aller. Et selon notre constitution, la justice est gratuite. Une personne ne peut pas n'est pas aller en justice parce qu'elle manque des moyens. Donc la justice, elle est gratuite, c'est un principe constitutionnel. Lorsqu'on se rend compte que les acteurs judiciaires ne font pas correctement leur travail, que les victimes puissent dénoncer cela auprès de leur chef hiérarchique. Elles peuvent même saisir les conseils supérieurs de la magistrature pour que des sanctions appropriées soient prise à l'endroit de ces magistrats qui commettent de pareilles infractions. Il n'y a pas à se décourager et on peut, si on n'a pas d'avocat, saisir les bureaux de consultation gratuites lorsqu'on n'a pas de moyens, lorsqu'on a indigent, pour demander une assistance judiciaire gratuite. Et cela est possible pour des gens qui se retrouvent, par exemple, dans la ville de Kinshasa, dans les villes comme Bandaka, Bukavu, Kindu. Nous avons mis en place des boutiques de droit pour pouvoir venir en aide à des pareilles personnes qui se retrouvent en difficulté et qui sont vulnérables et qui n'ont pas de moyens pour pouvoir aller en justice. Si notre ami qui dit qu'il est en Guémena, il peut, même par téléphone, contacter notre bureau en Bandaka ou contacter notre boutique des droits. On peut voir dans quelle mesure on peut mettre à sa disposition un avocat pour une assistance.
Alors, le numéro de votre bureau en Bandaka?
Bon, je vais vous le donner à la fin.
On va évoluer, Maître Dominique. Il paraît qu'à défaut, parce que vous l'avez même mentionné en début de votre intervention, qu'à défaut d'état civil, la loi congolaise, en son article 167, prévoit que l'âge de l'enfant victime de violences sexuelles soit déterminé par un examen médical.
Ouais.
Alors, mais il y a certains points, comme vous l'avez dit, où le problème se pose avec acuité.
Effectivement, c'est des difficultés que l'on rencontre. Il y a des pratiques qui sont faites par certains organismes qui apportent l'appui en matière de violences sexuelles, particulièrement en ce qui concerne l'appui médical. On voit par exemple la denture, la construction des dents, par exemple la structure des os, pour pouvoir déterminer cela. C'est même pour cela que la loi exige qu'une victime de violences sexuelles ait l'assistance médicale, l'assistance d'un psychologue et l'assistance judiciaire pour son encadrement et son accompagnement. Et pour ce faire, lorsque les problèmes se posent aussi bien pour la victime que pour l'auteur, parce qu'on constate aussi qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se livrent à des pratiques des violences sexuelles sur leurs amis, dans le quartier et tout ça. Et même pour les auteurs aussi, ou les présumés auteurs, la question de l'âge se pose. Parce que lorsqu'il s'agit d'un enfant de 16 ou de 17 ans, et lorsqu'il s'agit d'un adulte, la procédure à mettre en jeu est différente.
Maître Dominique, si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle elle a été commis, que prévoit le législateur congolais?
Oui, dans ces cas, la sanction, c'est la servitude pénale à perpétuité. Lorsque le viol a causé la mort de la victime, la sanction, c'est la servitude pénale à perpétuité. Nous voyons là que nous sommes en train d'évoluer vers la tendance abolitionniste où les législateurs se refusent de prévoir la peine capitale.
Oui, disons, selon les informations en position d'ailleurs de cette loi, il y a également, le législateur a prévu des cas où le minimum de la peine pourrait être doublé. Même si ça ne connaît pas la mort, mais ça pourrait être doublé.
Effectivement, c'est le cas des attentats à la pudeur ou des viols commis par des personnes qui ont une certaine ascendance sur la victime. C'est le cas des ministres des cultes, pasteurs dans les églises. C'est le cas des officiers et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le cas des parents ou des autres ascendants dans la famille. Et lorsqu'il s'agit des parents ou même des tuteurs, la loi va plus loin, dit qu'on peut même prononcer la déchéance de l'autorité parentale sur l'auteur.
081-890-63-94, c'est pour les appels avant de recevoir Norbert Dibélaï.
Il arrive que vous soyez passionné des débats politiques, que vous réagissiez vite aux propos des politiques. Radio Okapi vous offre un cadre pour dialoguer avec les gouvernants, les hommes politiques, ainsi que les observateurs de la société civile. Du lundi au vendredi de 19h15 à 20h heure de Kinshasa, Dialogue entre Congolais vous promène dans la sphère politique congolaise avec Alain Giboum.
Norbert Dibélaï, vous nous appelez de Kadanga, bonjour.
Bonjour Guillaume, bienvenue, bonjour à tous les auditeurs de la radio Patrie, ainsi qu'à l'invité du jour, Maître Dominique Camon. Je vais juste poser la question à Maître Dominique. C'est un témoignage pour moi. Il y avait un monsieur ici à Canada, c'était un ami, je le connais bien. Et le monsieur s'est déplacé pour aller faire les examens d'état à Mikalaï. Vous imaginez, c'est quelque chose de 7 km avec la ville. Maintenant, quand il est parti là-bas, il avait fait une fille là, il sortait avec elle. Il a téléphoné la fille, il a dit qu'il vient me rejoindre au niveau de Mikalaï. Je suis à Mikalaï en train de préparer des examens. La fille a fait les taxis moto, elle était là-bas pour rejoindre le monsieur à Mikalaï. Maintenant, quand la fille arrive là-bas, la fille passe une deux jours là-bas pour ne pas rentrer chez elle. Maintenant, le matin, les parents de la fille viennent se plaindre, oh, notre fille a été volée. Vous imaginez, c'est, parce que quand on parle de la violence, c'est pas le consentement de la personne qu'on doit violer. Donc, maintenant, c'est avec le consentement. La fille, elle a accepté de passer à Mikalaï. Maintenant, le matin, les parents viennent parler de nous, c'est la violence. Deuxième problème. On dit que l'île est censée ignorer la loi. Maintenant, quand nous avons traité ça, nous voyons qu'on avait fini le métier pour. On a laissé aussi la fille. Vous vous imaginez? Donc, la loi est injuste en ce qui concerne les sanctions. Maintenant, la fille, c'est avec le consentement de la fille. Comment on doit punir le monsieur et laisser la fille? C'est juste ça ce que je vais demander à notre invité. Merci, Jérôme.
Voilà, merci à vous également, Norbert Dibélaï de Kananga. Est-ce que la loi est injuste? Est injuste parce que en punissant l'homme, disons des bourreaux, c'est pas moi. Parce que là, la question est d'abord floue. Le monsieur, est-ce que M. Dominique, la loi est injuste?
Merci beaucoup. J'ai suivi très bien la préoccupation de notre ami Robert. Mais dans ce cas-là, on doit faire la part des choses. Si la fille est majeure, c'est-à-dire qu'elle a plus de 18 ans, et qu'elle s'est déplacée elle-même, ils ont eu des rapports sexuels avec son consentement. Il n'y a pas eu ruse, il n'y a pas eu violence. Dans ces cas-ci, il n'y a pas viol, il n'y a pas violence sexuelle. Mais si la fille est mineure, c'est-à-dire à moins de 18 ans, la loi dit que dans ces cas, il y a viol présumé avec violence. Parce que la personne âgée de moins de 18 ans est un enfant et n'a pas de volonté à donner. Donc, c'est une personne incapable. Même si cette personne donne son consentement, ses consentements n'est pas valide. Dans ce cas, la loi présume qu'il y a viol réputé avec violence. Si la fille a moins de 18 ans, le monsieur est condamnable parce que toute personne majeure sait pertinemment bien qu'elle ne peut pas avoir sexuelle avec un enfant.
Que j'imagine si le monsieur a présenté les examens d'État, où il s'est préparé pour aller à l'épreuve, aux épreuves de l'examen d'État, c'est que la copine ne pouvait qu'avoir moins de 18 ans. Ça, c'est une supposition.
Voilà, donc il est établi que la fille a moins de 18 ans,
donc le monsieur est coupable.
Le monsieur est coupable conformément à la loi.
Zilia Monvillé de Colosi, bonjour Zilia.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est précise, parce que depuis lors, on voit beaucoup de dérapes arrivent même au niveau de juges ou des magistrats, parce que dernièrement, on a vu un monsieur qui était calomnié. Il avait consacré la fille d'un militaire, et a envoyé sa fille chez le monsieur la Haine, qui était un peu effrayé. Et après un temps, il est venu le surprendre. Ça disait que le pain était en fait des paratines classiques qui étaient encore vite.
Voilà, mais Zilia, vous sentez vraiment très coupé, on vous saisit à peine, donc on ne peut pas. Mais disons, on comprend qu'il y a quand même un abus. J'ai pas compris qu'il s'agit là d'un abus. Un monsieur qui a envoyé sa fille auprès d'un de ses camarades, et deux heures après, vient de surprendre. Donc, le monsieur avec sa fille, donc on peut dire, la violence ou le viol a été consommé. Est-ce que ça ne peut pas être un complot ou par exemple
que c'est-à-dire que le monsieur a tendu un piège à monsieur, il a envoyé la fille après avoir préparé la fille, mais est-ce que lorsque on se retrouve dans une situation de faiblesse, on doit nécessairement céder, surtout s'il s'agit d'une fille mineure? Est-ce que même si on trouve une fille mineure seule qui te demande d'aller avec elle, est-ce qu'il faut nécessairement aller à un homme responsable? C'est pas pour dire que la personne doit aussi être prudente, parce qu'on dit bien que même s'il y a consentement de la fille, lorsque celle-ci est mineure à moins de 18 ans, son consentement n'est pas opérant. Son consentement est inopérant. Dans ce cas, il y a viol réputé. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de gens, comme il y a suffisamment d'attention sur cette matière des violences sexuelles, il y a aussi des personnes qui commencent à utiliser les violences sexuelles comme un fonds de commerce pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir rendre des comptes aux autres.
Monsieur Dominique, on va terminer peut-être avec deux petites questions. Que prévoit la loi congolaise en ce qui concerne des personnes qui aura délibérément peut-être contaminé une personne d'une infection sexuellement transmissible incurable?
C'est là aussi une forme des violences sexuelles, l'effet de contaminer volontairement une personne par une infection sexuellement transmissible incurable est une infraction prévue et réprimée par la loi.
Voilà, Soupi Nyembo de Kalima, c'est le dernier intervenant. Bonjour Soupi.
Oui, bonjour Monsieur Gilles, bonjour à Monsieur Dominique et bonjour à tous les auditeurs de cette radio. J'ai dit, ceci ma préoccupation de... Donc, un homme qui viole la femme, par exemple, à la forêt, cet homme va subir combien d'argent et combien d'années qui doit passer au prison, par exemple, prison centrale. Et une autre question, monsieur le journaliste, par exemple, un homme qui a fait cet acte de violence sexuelle et puis il demande le pardon, s'il doit être pardonné. Et pour terminer mes préoccupations, j'ai dit ceci. Par exemple, un homme qui était parti avec sa femme à la forêt, et puis il revient tous à la forêt, et donc en ville, dans sa parcelle, l'homme demande que la femme prépare la maison et la nourriture. Comme il dit, je ne sais pas préparer la maison parce que
j'étais au
chat. Donc, okay. Ça, si il est la violence, le viol ou pas.
Bon, voilà, on commence avec la première préoccupation, c'est la forêt. Ouais. On va violer dans la forêt.
Une femme violée dans la forêt, la peine peut aller de 5 à 20 ans selon les circonstances de l'infraction. Donc, la peine minimum, c'est de 5 ans. Des prisons. Donc, on ne peut pas prononcer une peine moins de 5 ans.
Voilà. La deuxième préoccupation, on peut quand même répondre rapidement.
Oui, en ce qui concerne le pardon ne constitue pas un élément pour exonérer l'auteur. Même si l'auteur a demandé pardon, la peine subsiste. Si l'auteur offre de réparer, le juge peut tenir compte de cela comme circonstance atténuante. Mais cela n'enlève pas le caractère infractionnel à l'acte commis. L'acte reste condamné.
On retient qu'il existe une loi sur la violence sexuelle, promulguée d'ailleurs en 2006, le 20 juillet, et les victimes peuvent se plaindre, disons, peut-être passer par le droit de recours ou des procédures judiciaires pour que ces bourreaux soient punis. Il y a des sanctions qui sont prévues par rapport aux différentes formes de violence que nous avons énumérées ici avec Maître Dominique autour de cette nouvelle loi. Un dernier mot ?
Non, juste pour préciser que lorsqu'il y a infraction de violence sexuelle, les victimes doivent rapidement dénoncer cela à la police ou au parquet le plus proche.
Merci beaucoup Maître Dominique d'être venu et nous remercions également les intervenants, donc les auditeurs qui ont participé, qui ont apporté quand même une contribution à cette réflexion. Merci et bonne semaine.